ne pouvais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pouvons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs.
Bienvenue à ce temps d'enseignement. C'est une joie pour moi de pouvoir vous retrouver et partager vraiment cette étude autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai nommé comme thématique « Pardonner pour aimer ». Pardonner pour aimer. Face à l'évangile, j'ai pu remarquer différentes réactions qui sont liées à l'histoire que chacun a, mais aussi et surtout à la perception que chacun a de soi-même. Par exemple, certains se trouvent tellement bons, tellement autosuffisants, qu'ils présupposent qu'ils n'ont pas besoin de salut. Ils n'ont pas besoin finalement de l'évangile, ni ce que l'évangile leur offre. D'autres se pensent tellement mauvais, tellement méchants, qu'ils se refusent au fait d'accepter qu'il y a un espoir de salut pour eux. Mais il existe encore un dernier type de personnes, qui, malgré leurs conditions, justement, ils reconnaissent cette condition de pécheur et ils sont prêts à accepter le pardon inconditionnel que seul Jésus peut proposer. Martin Luther a dit un jour, « Les larmes des yeux sont l'eau du cœur. » Ça m'a marqué cette expression et c'est en lien avec le texte qu'on va étudier, qui est une femme qui pleure. Mais ça m'a aussi rappelé une expérience qu'on a vécue avec mon épouse lors de notre première mission. Dieu nous a envoyé au travers de l'Église pour pouvoir aider une Église qui vivait un processus très très compliqué. Et je me souviens que la veille du moment où j'allais prêcher, où j'allais justement intervenir auprès de l'Église, j'ai pu passer toute la journée à l'Église et ce jour-là, la présence de Dieu m'a saisi d'une telle façon. J'ai commencé à adorer le Seigneur et je commençais à beaucoup pleurer. Et au milieu du pleur, Dieu m'a donné une conviction de pouvoir nettoyer chaque chaise qui représentait chaque personne qui venait dans l'assemblée avec des larmes. Alors, je ne peux pas trop vous expliquer comment, mais Dieu m'a donné assez de larmes pour pouvoir nettoyer chacune des chaises. Dieu était en train de faire avec moi ce qu'on appelle un acte prophétique, puisqu'en fait, Dieu était en train de laver les cœurs au travers de cela. Je ne veux pas rentrer dans un mysticisme, mais je veux vous parler que il y a une certaine pureté lorsqu'il y a une émotion du cœur qui est transmise au travers aussi des larmes. Lisez avec moi, par exemple, le texte qui se trouve dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Il nous dit ceci. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue de la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds, elle pleurait. Elle se mit à mouiller et de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et les embrassant, elle versait leur parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme vraiment était un prophète, il saurait que cette femme qui le touche, que c'est une femme d'une vie de débauche. Jésus lui répondit à haute voix. C'est-à-dire que le pharisien, lui, le réfléchissait, mais Jésus va lui répondre à haute voix. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur qui avait deux hommes qui lui devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils devaient. « À ton avis, lequel des deux l'aimera plus ?» Simon répondit, « C'est lui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. »« Voilà ce qui est bien jugé, lui dit Jésus. » Puis, se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a arrosées de ses larmes et elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu ne m'as pas versé d'huile parfumée de ma tête, mais elle a versé son parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Et cela parce qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent entre eux, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. » Ce texte me bouleverse. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un pharisien et d'une femme d'une mauvaise réputation. Avec le recul, nous savons aujourd'hui que les pharisiens étaient des gens religieux, des gens type moralisateurs. Dans la plupart des cas, c'était des gens qu'aujourd'hui on peut considérer comme hypocrites. Ils s'attachaient en fait aux lois rabbiniques pour se vanter ensuite de leur prouesse, du fait qu'ils arrivaient à accomplir des lois. Cependant, à l'époque, les pharisiens n'étaient pas du tout vus comme ça. En fait, bien au contraire, à l'époque, les pharisiens, c'était des modèles à suivre. Et c'est important de garder ça en tête parce que ça va mieux nous permettre de pouvoir comprendre le message de Jésus. On a aujourd'hui le recul, notamment grâce à notre épisode où il y a Jésus qui parle d'un publicain. C'est dans Luc chapitre 18, il est dit que le pharisien, lui, il priait à haute voix. Et je vais paraphraser un petit peu ce qu'il disait, mais en gros il disait « Je te remercie Dieu que je ne suis pas comme ces autres, que je ne suis pas adultère ou voleur, ni même comme ce publicain. » Je jeûne, moi, deux fois par semaine. Et je donne ma dîme en temps et en heure. Et là, on voit quelque part, vous comprenez bien, les pharisiens comme des gens hyper corrects. Sauf qu'ils étaient complètement dans l'erreur tout de même. En fait, voici vraiment ce qu'ils disaient. En fait, ce qu'ils disaient, c'est « Je te remercie, Dieu, que je n'ai pas besoin de toi, que je n'ai pas besoin de ta grâce ni de ton pardon. » Pourquoi? Parce que mon caractère et mes œuvres sont assez bons pour être acceptés de toi. Voilà ce qu'il disait. Alors, je fais ce parallèle pour revenir à notre histoire. La femme dont il est question ici, elle est reconnue à cause de sa mauvaise réputation, à cause de ses immoralités. Et tout le monde savait ce qu'elle faisait. C'est donc un contraste fort entre deux personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux personnes avaient quelque chose en commun. Et c'est sur ça que Jésus va insister et ce qu'il va révéler au travers de cette parabole. Maintenant, la motivation de Simon le pharisien, dont il est question ici, c'était celle de se faire sa propre image sur qui était ce Jésus dont on parlait à ce moment-là. Parce que, en fait, ça l'intriguait, il était intéressé, intrigué par le personnage que Jésus représentait. Mais peut-être aussi, il voulait le piéger sur des réactions ou sur des réponses qu'il allait donner. La femme, quant à elle, elle a dû passer, il faut le comprendre, plusieurs barrières avant de pouvoir se retrouver là où elle va se retrouver, c'est-à-dire aux pieds de Jésus. Car en soi, il faut savoir, c'était le pire moment, vraiment le pire moment pour s'approcher de Jésus. Et elle n'était pas la bienvenue, et elle le savait en fait, elle n'était pas bien, la bienvenue chez Simon le pharisien. Sa seule présence, ça allait pouvoir être estimé comme une provocation, comme le fait de vouloir faire un scandale. Mais croyez-moi, ce n'était pas du tout ce qu'elle souhaitait. En fait, elle était motivée, elle voulait y aller, car sa motivation n'était pas une curiosité intellectuelle ni religieuse. En fait, elle était venue chercher le soulagement de ses profondes blessures de son âme. Et c'est qu'elle a dû entendre Jésus à un moment parler de justice, la justice de Dieu. Elle avait sûrement aussi dû se rendre compte de son état. Et elle avait sûrement aussi entendu Jésus parler de grâce, parler de la miséricorde du Père. Et c'est ça qui l'a rapproché à Jésus. Mes amis, je voudrais vous faire la première emphase sur ceci. Pour vivre l'évangile, un simple intérêt n'en suffit pas. Il nous faut de la foi. La foi, c'est la démarche du cœur qui va nous permettre de nous approcher de Jésus. Et il faut comprendre un peu plus la scène. Parce qu'à cette époque-là, les gens, ils se baladaient dans des sandales, vous voyez. Et en plus, les chemins, ils étaient en terre. Donc systématiquement, dès que quelqu'un arrivait dans une maison, eh ben, les hôtes de maison, en fait, les personnes qui accueillaient, proposaient de leur laver les pieds. Ils proposaient de laver les pieds des invités. Donc les repas, en plus, à l'époque, n'étaient pas pris comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne s'asseyaient pas forcément sur des chaises. C'est comme s'ils s'allongeaient, en fait, autour de la table. Du coup, ils mettaient les pieds vers l'arrière. Ils se tenaient sur une main. Et c'est comme ça qu'ils commençaient à manger. Et c'est ce qui explique que la femme arrive à se mettre derrière, à se retrouver derrière Jésus, à lui laver les pieds. Et non seulement elle va lui laver les pieds, mais elle va aussi les embrasser. Elle va embrasser les pieds de Jésus. En fait, de ses larmes, elle va les laver et elle va les embrasser. Et les embrasser, pour moi, ça veut dire que c'est un signe profond de respect et de soumission, mais surtout d'affection envers Jésus. Et ce qui est encore plus fort, c'est que la coutume à l'époque, c'était de oindre la tête des invités avec de l'huile, vous voyez. Mais là, elle va oindre de parfum les pieds de Jésus, parce que je crois qu'elle se reconnaissait totalement indigne de pouvoir verser quoi que ce soit sur la tête de Jésus. Alors au moins elle voulait verser ce qu'elle avait de plus précieux pour elle, son parfum, au moins dans les pieds de Jésus. Et ce parfum avait d'autant plus une valeur importante pour elle, puisque c'était quelque part son outil de travail en fait. C'était un véritable outil de travail. Elle va verser cela sans compter. Ça se trouve, c'est des mois et des mois de salaire en fait qu'elle va verser au travers de ça. C'est un énorme geste. En gros, toute sa fortune, elle la remettait à Dieu. C'était ça l'image. Elle la remettait à Jésus. Et encore plus fort. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais la femme ne va pas dire un mot. Pendant toute la scène, la femme ne dit pas un mot, mais ses actes parlent tellement fort. Elle a utilisé ses cheveux en guise de serviette. Et mesdames, je parle à toutes ces dames, combien les cheveux sont importants pour vous? C'était pas n'importe quoi que de prendre ses cheveux et d'essuyer les pieds de Jésus. Mais elle n'a pas hésité une seconde. En fait, ses yeux pour pleurer, ses mains pour laver, son parfum pour oindre, disaient déjà tout ce qu'elle avait à dire à Jésus. Elle n'avait pas besoin d'en dire davantage parce que ce qu'elle est en train de faire, elle était en train d'adorer véritablement Jésus en fait. Et c'est une adoration dans toute sa splendeur, ce qu'elle était en train de faire. Elle rendait un hommage réel au seul qui l'avait aimé telle qu'elle était. Et en plus, elle se rendait compte qu'elle n'avait rien fait pour pouvoir obtenir l'amour de Dieu. Cette femme était complètement détruite. Les gens la regardaient comme de la pourriture. Et seul Jésus va l'accepter à cause de l'attitude de son cœur qui témoignait très fort de sa foi. Écoute-moi. Je voudrais que tu puisses comprendre ceci. Quand tu as la foi en Jésus, quand tu as une véritable foi en Jésus, tu sais comment adorer Jésus. Laisse-moi revenir sur cette histoire de dette de la parabole. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette dette? Est-ce qu'il faut beaucoup pécher pour beaucoup aimer? C'est ça qu'il faut comprendre. Si tel était le cas, on aurait un véritable problème pour justifier le sens du psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir dans des chemins de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Comment est-ce qu'on peut du coup comprendre ce verset? Je crois qu'il y aurait une contradiction. De plus, si tel était le message vraiment dont il était question ici dans cette parabole, ça s'harmoniserait vraiment et totalement avec la pensée de Simon le pharisien qui était celle de dire que les immoraux, eux, ils devraient aimer plus Jésus, plus que les personnes qui n'ont pas fait trop d'erreurs, vous voyez. Alors on pourrait supposer que Jésus pourrait dire à Simon dans cette même hypothèse, « Oh Simon, en fait tu as raison, tu as tellement raison de ne pas m'aimer, de ne pas m'adorer avec la passion que cette femme a, elle le fait. Tu as raison de rester statique dans ma présence, à simplement analyser ce que je dis. Oh oui, tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas autant péché, tes péchés ne sont pas si graves que ça. » Cette femme par contre, elle oui, mais c'est pas du tout ça le cœur du message, c'est pas du tout ça le cœur de cette parabole. Comme au fait, comme aucun de deux, et c'est ça qui le texte dit, aucun des deux n'avait de quoi rembourser la dette, alors il va faire cadeau à tous les deux de ce qu'ils devaient. Les deux avaient besoin de grâce, les deux avaient besoin d'être graciés, les deux ne pouvaient pas payer la dette. Et ça, c'est très important de le considérer et de le comprendre. Donc, la façon de penser de Simon est totalement contraire à celle du cœur de Dieu. Parce que le problème majeur de Simon, les amis, le problème majeur de ce pharisien, c'est qu'il était complètement inconscient de sa dette. Et je crois que par moments, c'est aussi notre problème. On se focalise sur le nombre de péchés ou sur la gravité des actes qu'on a pu commettre ou pas. Mais si je te disais que pour Dieu, un péché, c'est un péché et un pécheur, c'est un pécheur. Et qu'une personne qui commet a priori pas de péché si grave a besoin d'être pardonnée comme celle qui a commis des choses très graves et qu'aujourd'hui sont même en prison à cause de leur délit. Et car c'est ce qui est fort dans cette parabole, c'est que avant de leur pardonner la dette, les deux avaient besoin de cette grâce. Et il faut le comprendre, avant le pardon de la dette aussi, les deux avaient besoin d'être libres. Et une fois que la dette est pardonnée, les deux sont libérés, les deux retrouvent la liberté. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que soit on est complètement perdu, soit on n'est pas complètement perdu. Dans ce cas-là, on est sauvé. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autre option. Il n'y a pas d'entre deux. La logique pharisienne voudrait nous pousser à comprendre les choses comme ça. Et par moments, on va être tenté par comprendre les choses de cette logique pharisienne. Parce que la logique pharisienne voudrait dire que pour que Dieu me bénisse, qu'il m'accueille, je dois l'aimer et mon amour va se manifester en gardant ses commandements. Et vous voyez, tout ce que je viens de dire semble très sensé et on peut même peut-être l'entendre dans des assemblées. Mais cette logique, en fait, est l'inverse de ce que Jésus enseigne. Parce que ce n'est pas le fait d'aimer Dieu en soi qui fait qu'on soit pardonné. Ce n'est pas le fait d'aimer... Je vais te le répéter. Ce n'est pas le fait d'aimer Dieu en soi qui fait qu'on soit pardonné. Mais c'est le fait qu'on soit pardonné qui nous pousse à aimer Dieu. Et c'est là la limite. Pourquoi? Parce que si on va dans l'autre sens, on rentre dans du légalisme. Pour cette femme, le fait de savoir tellement pardonner, c'est ça qui la pousse à tellement aimer. Mais tu ne peux vivre cela dès lors que tu prends conscience que tu es comme cette femme. Ça veut dire que tu es un pécheur, que je suis un pécheur. Aujourd'hui, nous savons, contrairement même à cette femme, que Jésus a dû mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Cette femme ne le savait pas. Et parce qu'elle ne savait pas ce que Jésus allait faire, que son adoration, elle est d'autant plus extravagante, elle est d'autant plus puissante. Les églises, par moment, les amis, excusez-moi de vous dire ça, mais les églises, par moment, sont remplies de gens consommateurs, des gens qui veulent être servis, des gens qui veulent simplement être aimés, qui veulent qu'on les accueille comme des rois. Aujourd'hui, on va tellement loin. On va tellement loin qu'on va même noter les églises comme un restaurant. On met des étoiles sur Internet pour dire une église est bien ou pas bien. On en est arrivé à là. Et les amis, si tel est ton cas, si tu comprends l'évangile d'un principe de consommateur, c'est que tu n'as pas compris l'évangile en fait. Parce qu'il me semble que l'église, c'est un ensemble de personnes qui se reconnaissent pécheurs avec un profond besoin de Dieu avant tout. Ce sont des personnes qui ont besoin d'exprimer d'une façon ou d'une autre une profonde reconnaissance pour le pardon qu'ils ont reçu à cause du sang versé à la croix par Dieu lui-même. Alors je te le dis haut et fort, si tu vis la foi avec un cœur de consommateur et non d'adorateur, tu perds ton temps. Nous avons besoin de réaliser jour après jour et de nous rappeler tout ce que Dieu nous a pardonné. Dieu nous a tellement pardonné. Et si on ne se rappelle pas de ça, nous risquons de rentrer dans une logique pharisienne. Les amis, ça me fait mal de devoir dire ça. Mais dans nos assemblées, par moments, on ressemble bien plus à des Simons que à cette femme. Je voudrais m'expliquer. On ressemble plus à un Simon avec la prétention d'être une bonne personne qu'à une femme qui reconnaît sa condition et son profond besoin de Dieu. Et parfois, je vois que dans les églises, on est là à comparer et à juger le mal de celui-ci ou de celle-là. Mais personne ne peut se comparer en matière de péché. Personne ne peut se comparer avec quelqu'un. Si tu veux te comparer à quelqu'un, tu dois comparer à Jésus lui-même et tu dois te comparer. Je dois me comparer d'abord à notre modèle qui est Jésus lui-même. Parce que autre ça, au-delà de ça, il n'y a aucune comparaison qui a de sens dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a même pas de place pour ça. Jésus est venu pour des pécheurs. Ça veut dire que Jésus est venu autant pour cette femme avec une vie totalement désordonnée que pour un religieux qui se pense assez juste. Et je voudrais te dire ceci, ce qui est fort, c'est que Simon le pharisien est encore plus loin du cœur de Dieu que cette femme que lui-même condamne. Le religieux est plus proche de l'enfer finalement, car la femme, elle au moins, elle reconnaît son besoin de Dieu. Et tu sais quoi? Tu sais c'est quoi le problème qu'on peut avoir par moment? Tu sais c'est quoi le problème qu'on peut avoir dans nos assemblées? C'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas assez pécheurs pour mériter l'enfer. Il y a des personnes qui ne se considèrent pas assez mauvaises pour mériter l'enfer. Et c'est très dangereux parce que ça voudrait dire aussi qu'on s'éloigne de la base de la repentance, de la base de la nécessité de la repentance. Parce qu'un vrai disciple de Jésus se reconnaît d'abord comme un pécheur qui a été pardonné, racheté par l'œuvre de Jésus, mais d'abord et tout d'abord comme un pécheur. Car seul un malade appelle un médecin. Mes sœurs, mes frères, je vous le dis de tout cœur, est-ce que vous croyez vraiment qu'on est si bon que ça? Et est-ce qu'il y a en nous une considération de ça? Moi, je crois qu'il n'y a qu'un seul qui est bon. Un seul. Et c'est celui qui est venu du ciel, le Fils, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu lui-même. C'est le seul qui est bon. Il a été un homme parfait en tous sens et il a porté tous nos péchés. Si nous sommes bons ou quoi que ce soit, les amis, c'est parce que nous sommes en Christ, tout simplement. Mais en nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Je voudrais finir avec ceci. Le texte finit de la plus belle façon parce que ce texte finit avec une phrase, avec des mots, avec une parole qui va percuter cette femme. Cette femme n'aurait pas pu rêver mieux. Les paroles de Jésus vont être tellement puissantes et vont lui dire, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvé. Parce que le salut n'est pas le fait d'accomplir quelque chose. C'est ça que Jésus est en train de le dire. Le salut, c'est le fait de croire en celui qui a tout accompli. C'est le fait de croire en Jésus, en fait. Et cette femme a cru. Cette femme a cru. Alors, je nous pose la question, les amis. Est-ce que on comprend que par notre condition, on ne peut vraiment, vraiment pas croire qu'on peut gagner le salut, si ce n'est par le moyen d'accepter notre condition et nous de repentir jour après jour? Je pose une autre question. Est-ce que nous vivons en réalisant que nous ne pouvons absolument rien faire pour obtenir le pardon, mais dans cette perfection de l'amour de Dieu, nous sommes pardonnés par grâce? Si nous vivons en réalisant cela, je crois qu'on va vivre dans une vie vraiment d'adorateur et non de consommateur. Et jour après jour, je crois que notre orgueil laissera la place pour que notre humilité vraiment la prenne. Je vais dire ça autrement. Notre orgueil laissera de plus en plus de place à notre humilité. Mes amis, au travers de ce message, j'ai simplement à cœur de te dire, nous avons besoin de Jésus. Et nous ne pouvons pas considérer que nous n'avons pas besoin. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous croire assez bien ou assez bon. Nous avons besoin de Jésus. Si tu veux bien, je voudrais prier avec toi. Là où tu es, simplement ferme tes yeux, on va prier ensemble. Jésus, Jésus, on a besoin de toi. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ton pardon. Et on a besoin de se rappeler à quel point et combien tu nous as pardonné. Seigneur, nous ne voulons pas rentrer dans une logique pharisienne. Nous ne voulons pas commencer à croire qu'en fait on ne mérite pas l'enfer alors qu'on le mérite. Mais toi, tu nous as rachetés pour que nous puissions vivre avec toi éternellement et non pas aller en enfer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et chaque être humain, chaque individu, chacune de tes créatures ont besoin de toi. Alors aujourd'hui, je prie Seigneur, je prie Père éternel pour chacune des personnes qui ont entendu ce message. Je prie Seigneur pour que ces personnes, elles puissent saisir Seigneur leur nécessité de Jésus et qu'on puisse toujours et toujours être dans une attitude d'adorateur. Seigneur, parce que nous sommes pardonnés, c'est pour ça que nous pouvons aimer. Seigneur, tu nous as pardonné. On veut commencer à aimer. Merci Jésus pour ton œuvre. Mes amis, juste avant de vous quitter, il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui n'a jamais fait l'acte de pouvoir donner sa vie à Jésus. Et qu'aujourd'hui, en écoutant ce message, tu t'es dit et tu as réalisé que tu as vraiment besoin de Jésus. Je ne voudrais pas laisser passer l'occasion, mais plutôt je voudrais t'inviter à que tu offres ta vie au Seigneur. Offre ta vie à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois renoncer à toi-même. Tu vas prendre sa croix et tu vas marcher à sa suite. Si tu es prêt à faire ce pas, si tu es conscient de ce que tu vas faire maintenant, je voudrais t'accompagner dans une prière pour que tu donnes ta vie à Jésus. Répète avec moi tout simplement. Jésus, je me reconnais comme un pécheur. Je reconnais mes erreurs. Et je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux accueillir ton amour dans mon cœur. Et ton pardon parce que tu me pardonnes. À partir de maintenant, je veux que tu sois mon sauveur. Je veux que tu sois mon Seigneur. Et inscris mon nom dans le livre de la vie parce qu'à partir de maintenant et pour toujours, je veux vivre avec toi. Merci Jésus de m'accueillir dans ton royaume. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, s'il te plaît, écris-le en commentaire ou alors contacte-nous directement via le site de l'Église. Mes amis, c'était un honneur pour moi de partager ce temps de parole de Dieu. À bientôt, soyez bénis.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses pas? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour. Son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette s'est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son sang. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette s'est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, pas de tes payés. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant.